Mes salutations fraternelles à tous nos auditeurs, aux dispersés d'Israël. En ces derniers temps, nous traversons des expériences qui sont pour le moins déconcertantes et nous avons besoin de trouver notre issue à travers ces expériences. Le cœur de l'homme est naturellement enclin au désespoir. On est enclin au désespoir et à la solitude. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas qu'on réalise que l'on est enclin à ce désespoir et à cette solitude. On a besoin de réaliser notre véritable condition morale. Et on a besoin de venir aux prises avec la réalité de ces choses. En tant que chrétien, si vraiment on veut connaître Jésus, si vraiment l'on veut connaître Dieu et communier avec lui, on a besoin d'affronter, de faire face à la réalité des choses, et pas simplement à nos impressions, à nos sentiments, qui sont sans cesse en train de nous détourner du chemin. On dit facilement que notre ennemi, en tant que disciple de Christ, c'est Satan, et c'est vrai, mais en réalité, notre véritable et plus indomptable ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que moi, le moi est rempli d'orgueil, il est imbu de lui-même et il n'arrive pas, il ne sait pas et ne peut pas voir quelle est sa réelle condition. C'est pour ça que l'on a besoin de nous soumettre à Dieu pour que Jésus puisse vivre en nos cœurs et qu'on puisse lui donner la première place et que, en lui cédant tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons et tout ce que nous sommes, on puisse réaliser parfaitement notre, d'une manière véritable, notre réelle identité. On croit que notre identité, c'est ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous voulons, ce que nous ressentons, mais c'est pas ça. Notre réelle identité est en Christ. Notre réelle identité, nous la trouvons lorsque nous cachons notre âme en Jésus-Christ. Avant ça, tout ce que nous sommes, c'est une illusion. Ce que nous sommes par nature, c'est ce qui nous semble le plus tangible, mais c'est une illusion, ça ne dure pas. Nos sens, nos sentiments, tout ce qui a à voir avec nos cinq sens, croit que c'est ça qui est digne de ma confiance, mais c'est ça qui est digne de toute mon activité pour que je puisse le soumettre à Dieu et que lui puisse prendre la place de moi en moi. On a besoin que Dieu œuvre une œuvre en nous qui n'a pas été accomplie jusqu'ici. En tant que chrétien ou en tant qu'adventiste du septième jour, on peut très bien, si on le choisit ainsi, devenir des chauffeurs de banc. Des personnes qui viennent une fois par semaine dans un édifice construit de briques ou de toiles et qui s'assoient et qui chauffent le banc mais qui ne font rien d'autre. Le témoin fidèle et véritable dit que si seulement nous étions bouillants ou froids, alors il verrait quelque chose en nous. Mais si nous sommes tièdes, des chauffeurs de banc, il ne peut que nous cracher, nous vomir de sa bouche. Cela a été son avertissement dès les tout débuts du mouvement adventiste du septième jour. Et cet avertissement, il a continué jusqu'à ce que l'histoire nous montre qu'il a véritablement fait exactement ce qu'il avait prédit dans Apocalypse chapitre 3, dans son avertissement du verset 14 au verset 19. Un changement dans l'histoire des adventistes du septième jour a montré que Jésus ne ment pas lorsqu'il annonce ce qu'il va faire si nous ne nous repentons pas et si nous ne changeons pas notre attitude vis-à-vis de ses appels à notre cœur. Donc ce que je disais au début, c'est que on a un besoin, non pas seulement de ressentir notre solitude ou notre désespoir, mais de réaliser notre réelle condition morale par nature pour que cela puisse commencer à nous alarmer. On a besoin d'être alarmé. Jésus-Christ, Dieu, veut que nous soyons alarmés pour que dans cette alarme, nous le cherchions de tout notre cœur. Et il a promis que lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouvons. Mais beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens dans ce monde, y compris la grande majorité des adventistes du septième jour, ne trouvent pas Dieu parce qu'ils ne le cherchent pas de tout leur cœur. Et donc leur vie, c'est une réelle mascarade. Une mascarade. Et à l'extérieur, il semble qu'il y ait des choses qui soient en harmonie avec ce à quoi une vie chrétienne devrait ressembler. Mais il ne suffit que de sonder un instant la surface, à peine le dessous de la surface, pour réaliser qu'il y a ici des os morts. Comme dans la vallée des os morts. C'est un sépulcre blanchi. Et quelle triste réalité, frères et sœurs, si cela était aussi notre condition actuelle. Mais sans plus tarder, ce qu'on veut faire aujourd'hui, Dieu voulant ce que nous voulons faire, ce que je voudrais faire, c'est laisser l'esprit nous sonder alors que nous sondons la parole de Dieu pour que nous puissions ressentir notre besoin et comprendre la valeur de ce que Dieu donne pour répondre à notre besoin et soigner nos maladies. Pour commencer, on veut tout de suite se tourner dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1, versets 5 à 6. Ésaïe, chapitre 1, la deuxième partie du verset 5 et verset 6. Toute la tête est malade et tout le cœur languissant, de la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Ce ne sont que blessures, meurtrissures et plaies vives qui n'ont point été pansées ni bandé, ni adouci avec l'huile. Le prophète ici, il parle de la condition morale et spirituelle de ces gens qu'il voit. Et c'est réellement la condition morale par nature de l'homme. Toute la tête, tout ce qui réfléchit, tout ça, c'est malade et tout le cœur est languissant. Il y a une langueur perpétuelle qui n'a pas encore trouvé de remède durable. La tête, le cœur, et pas seulement ça, mais il ajoute, de la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Et ici, la réponse naturelle de l'homme, naturel et charnel, c'est de dire, ah oui, mais il faut lire le contexte. Le contexte. Le contexte, c'est le mot-clé. Le contexte, c'est le mot qui est utilisé à chaque fois que l'on n'est pas prêt à recevoir la pointe tranchante de la parole de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, ce passage, il s'applique à notre nature. Et il est d'ailleurs continué dans Romains chapitre 3. Dans Romains chapitre 3, au verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers, légers pour répandre le sang. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Et vous savez, ce qu'on veut faire là maintenant, c'est vraiment analyser, parce que à quoi bon si l'on lit la parole de Dieu et qu'on ne laisse pas chaque élément avoir son poids juste et avoir son impact dans nos vies personnelles. Dans nos vies personnelles, pas simplement pour pointer du doigt et dire que telle et telle personne est ainsi et que tous les gens qui me font du mal, ils sont ainsi et que moi, je n'ai rien à me reprocher. Mais non, de voir que en réalité, oui, c'est bel et bien la condition du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais non seulement ça, mais c'est en plus quelque chose que je trouve dans mon cœur. Et c'est ça qui provoque une alarme personnelle qui est une réelle motivation pour avoir et trouver quelque chose de meilleur. Parce que, et j'ai fait l'expérience à travers les années, il y a des milliers de chrétiens aujourd'hui, et il y a également des centaines et des milliers d'adventistes aujourd'hui qui passent leur temps à élaborer sur les fautes des autres. Et pas seulement les fautes, mais sur les conspirations des hommes, sur la malhonnêteté de certains, sur les crimes des autres et ça n'en finit jamais. Et pendant qu'ils font cela, il y a également un élément qu'on ne peut ignorer, c'est que plus ils critiquent et ils pointent du doigt et ils s'efforcent, pour ainsi dire, de découvrir les œuvres des ténèbres, le plus ils font cela et qu'ils s'adonnent à cela, le moins ils deviennent capables de discerner leurs propres erreurs, leurs propres imperfections et défauts de caractère. Mais nous savons, comme Jésus l'a dit, que nous devons être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et expliquez-moi comment exactement nous allons devenir parfaits si tout ce que nous faisons, c'est d'élaborer dans notre esprit ou avec notre langue sur les défauts et les crimes et les fautes des autres. La Bible nous dit que on est changé par ce que nous regardons. Et si nous ne regardons que ce qui ne va pas, en quoi serons-nous changés? Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle à chacune de nos méditations ici, chaque sabbat, nous voulons prendre le temps d'examiner non pas uniquement les fautes du monde, mais en quoi ces fautes trouvent aussi une réalité dans nos propres cœurs. Et donc, ce qu'on vient de lire ici, c'est qu'il n'y a point, pas de juste, non, pas même un seul. Il n'y a pas un seul juste. Comment ça, il n'y a pas un seul juste? Pas un seul. Mais qui est juste alors? Et que c'est exactement l'objectif de ce que la parole de Dieu a ici en nous disant cela. Non, il n'y a pas un seul juste. Même pas moi. Même pas moi. Par nature, je ne suis pas juste. Je crois peut-être que je fais certaines bonnes choses, mais par nature, je ne suis pas juste. Et si je ne suis pas juste, il n'y a qu'une autre possibilité. Je suis mauvais. C'est ma nature. Il continue. Tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Dans Jean chapitre 1, nous apprenons que Jésus-Christ est la lumière de chaque homme qui entre dans le monde. Donc la réalité, pour élaborer ce que je viens de dire, c'est que chaque enfant qui naît sur cette terre, il n'est pas un pécheur par le fait de naître, mais il naît dans une chair de péché, et la Bible nous dit que tous se sont égarés. Tous se sont égarés. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ce que la parole de Dieu dit. Tous se sont égarés. Cette lumière a été étouffée, a été obscurcie, et cet enfant est devenu un enfant de la rébellion. Un enfant, comme le dit la Bible King James, de la désobéissance. Et ça nous dit plus encore. Parce que c'est le fait de désobéir qui caractérise réellement que nous sommes des pécheurs. Et que nous sommes rebelles à l'autorité. Et si nous sommes rebelles à une autorité quelconque sur la terre, à combien plus forte raison sommes-nous rebelles à l'autorité de Dieu? Et nous continuons là, parce que on veut réellement que ça coupe. On veut réellement sans souvenir. On ne veut pas juste que ça soit quelque chose d'éloquent, quelque chose d'excitant. On veut que ça soit quelque chose qui nous prenne aux tripes et que le long de la semaine, je me souvienne de ce que j'ai entendu et que je considère attentivement que par nature, je suis un véritable pécheur. Et que Dieu me le communique pour une raison. Et donc, la suite, c'est « Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se sont servis de leur langue pour tromper, il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. » Et c'est effectivement la façon de communiquer que nous retrouvons aujourd'hui chez les personnes du monde, chez les personnes non converties ou chez les personnes qui ont une forme de piété. Et non seulement cela, mais si nous ne faisons pas attention et que nous ne sommes pas constamment engagés, impliqués dans ce processus de la conversion, alors il se peut très bien que nous verrons ces éléments ressurgir dans notre vie. Même en tant que chrétien, oui. Il est très possible que nous voyons ces choses que nous voyons à l'extérieur comme des choses séparés de nous, il se peut très bien que nous les voyons ressurgir dans notre vie et ces choses comme il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Cela veut dire que ils disent des belles choses, mais à la fin, c'est un véritable poison pour l'âme. Et se peut-il que vous et moi, frères et sœurs, à un moment ici ou là, nous ayons laissé libre cours à notre langue et que nous avons réalisé que nous parlons comme le monde. Nous voulons en être délivrés. Mais avant que nous entrons dans ce processus de la libération, on veut aller plus loin encore. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ça, je me suis dit, est-ce que c'est que les Français qui n'arrêtent pas de se plaindre comme ça? Est-ce que c'est que les Français? Parce que moi, j'ai cette nature, et donc je me dis, elle est vraiment terrible et épouvantable de se plaindre comme ça sans arrêt. C'est une véritable maladie. Mais j'ai également réalisé que, non, ce n'est pas que les Français. Les Allemands, les Australiens, les Gabonais, les Congolais, les Algériens, les Québécois, etc., etc. Ce n'est pas juste les Français. La nature de l'homme pécheur qui nous a été légué en héritage, quand bien même elle fut un tout petit peu meilleure dans les millénaires passés, est aujourd'hui exactement ce qui est écrit ici, c'est que leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. C'est-à-dire que par nature, je suis constamment rempli d'expressions, de malédictions et d'expressions intérieures ou extérieures d'amertume. C'est que nous sommes remplis d'amertume et donc notre bouche va le faire savoir. Et pourquoi nous sommes remplis d'amertume? Ça ne vient pas de nulle part. C'est parce que de la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Et donc, à l'intérieur de nous, vu qu'il n'y a rien de sain, eh bien, nous exprimons l'amertume et nous maudissons. Parce que nous ne pouvons pas bénir. Parce que pour bénir, il faut qu'une bénédiction soit agissante à l'intérieur de nous au premier abord. Mais je me permets de continuer pour qu'on ressente notre besoin encore une fois. Il faut que ça brise, il faut que ça coupe, et il faut que je réalise ma condition morale, par nature. Je précise par nature. Je ne parle pas ici de la conversion, je parle de l'homme par nature. Et vous allez me dire, ah mais je suis converti, ça ne me concerne pas. Mais non, 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 ça nous concerne à chaque instant. Parce que le processus de la conversion, il doit être constant. Et nous devons nous y engager de manière continue. Et si nous ne sommes pas engagés, ça ne veut pas dire que nous sommes directement des hommes perdus, mais cela veut dire que l'homme de la chair va progressivement reprendre le dessus. C'est comme cela que ça marche. L'esprit de prophétie nous dit que cela prend du temps, non pas seulement d'être transformé à l'image de Christ, mais que cela prend également du temps d'être transformé à l'image du satanique. Cela prend du temps. Cela ne se fait pas en un jour. Et donc le simple fait que je vois encore des vertus en moi ne veut pas nécessairement dire que je suis encore obéissant. C'est parce que cela prend du temps d'être transformé de l'image du divin à l'image du satanique. C'est un processus de transformation. Mais à Dieu ne plaise que nous soyons engagés dans ce processus inverse. À Dieu ne plaise. Continuons, continuons, frères et sœurs. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Et là, vous savez, c'est très, très intéressant. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que cela m'oblige à considérer mes actions. Mes actions, ce que je fais et comment je m'exprime. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Et Jésus a dit que si nous appelons notre frère Raca, nous l'avons déjà tué dans notre cœur. C'est-à-dire que pour tuer quelqu'un, il n'est pas nécessaire forcément de lui planter un poignard dans l'estomac, mais si nous médisons et si nous parlons de manière désagréable à quelqu'un, alors cela veut dire que nous avons les pieds légers pour répandre le sang. Et nous sommes en train de manifester une caractéristique de l'homme charnel. Et cela continue encore et encore et encore. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. C'est-à-dire que la présence de Dieu n'anime pas leurs désirs et leurs projets. Et donc, ils font et ils disent toutes sortes de choses parce que la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, n'est pas devant leurs yeux. Et dans Ésaïe 57, il est dit que il n'y a pas de paix pour le méchant. D'ailleurs, allons-y. Ça vaut le coup. Dans Ésaïe 57, chapitre 57, verset 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de la vase et du limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Point de paix. Les méchants sont comme cette mer écumée. Et vous savez, je m'étais toujours interrogé, mais à quoi ça ressemble? Je n'arrive pas à m'imaginer À quoi ressemble cette mer? J'ai fait une expérience en allant sur la côte atlantique, et c'était une journée avec beaucoup de vent et aussi de la pluie par intermittence. Et la mer, d'une manière très étrange, elle venait se rabattre, comme toujours la mer le fait, vers la plage, en montant et en descendant, comme la mer toujours le fait sur une plage. Mais c'était pas ça qui était intéressant, c'était que ce qui venait sur la plage, c'était une sorte de mousse, et le mot vraiment littéraire, c'est une écume, c'est une mousse sale, une mousse sale. C'est la mer, c'est l'écume du dessus de la mer qui vient se rapatrier sur le sable, sur le rivage. Et c'est vraiment dégoûtant. Et ce n'est pas un beau spectacle. Et vu que le vent soufflait et que la mer était agitée, ce qui se passait, c'est que tous les rebuts qui sont généralement au fond de la mer se retrouvaient plus ou moins à la surface et qu'ils remontaient et qu'ils venaient s'échouer sur le rivage, sur la plage, en écume. Et cette écume, elle venait voler dans l'air une couleur beige, sale. Et elle venait sur la plage, et tout le monde regardait ça comme un spectacle abominable et vraiment dégoûtant, ne réalisant pas qu'on avait là devant nos yeux un spectacle de ce qu'est l'homme charnel, ce que sont réellement ses manières de vivre aux yeux de Dieu. C'est comme cette mer dégoûtante qui n'arrête pas de cracher de l'écume sale. Parce que le cœur à l'intérieur n'est pas vivifié, donc il ne fait que ressortir toutes les choses rebutées, toutes les choses sales de la vie et du cœur. C'est l'homme, et l'explication de cela, c'est: il n'y a point de paix pour les méchants. Point de paix, le cœur n'est pas en paix. Et vous allez voir, en lisant Jésus-Christ, page 327, que ça s'applique aussi aux croyants. Dans Jésus-Christ, page 327, paragraphe 3. Nous lisons: l'expérience de chacun confirme la vérité de ces paroles de l'Écriture. Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut s'apaiser. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Et là, elle explique davantage. Le péché a détruit notre paix. Aucun repos tant que notre moi n'a pas fait sa soumission. Aucun pouvoir humain ne peut contenir les fortes passions du cœur. En ceci, nous sommes aussi impuissants que les disciples au milieu de la mer en furie. Et nous voulons nous souvenir, c'est que le péché a détruit notre paix. C'est le péché qui détruit notre paix et qui fait que notre cœur est comme cette mer agitée. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours bouleversé, c'est que on ne peut donner à une personne ce que l'on n'a pas. Et on ne peut communiquer et expliquer à une personne ce dont on n'a pas fait l'expérience nous-mêmes. Et à chaque fois que je réfléchis à ça, frères et sœurs, je me dis, vraiment, ça me tourmente parce que j'ai envie de communiquer la paix que Jésus donne. Mais si je veux vraiment la communiquer dans tout le soulagement qu'elle apporte à l'âme en détresse, il faut absolument que je trouve cette paix en Jésus à chaque moment de ma vie. Et c'est pour ça que ça me tourmente, parce que si je n'ai pas cette paix, alors comment est-ce que je vais pouvoir la transmettre? Mais je suis beaucoup encouragé parce que je trouve dans la parole de Dieu, parce que Jésus nous encourage et il ne laisse pas l'âme qui a failli et échoué sans réconfort et sans la consolation dont on a véritablement besoin. Et si à un moment donné, il est arrivé que j'ai manqué à Dieu et que je n'ai pas été fidèle comme j'aurais dû être fidèle conformément à la lumière que j'ai reçue, mais que si j'ai quand même un cœur sincère et que je veux quand même avouer à Dieu que j'ai mal fait, alors je peux être pardonné et restauré comme David l'a été. Et vous savez quel péché David a commis. Et pourtant, Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. Mais avez-vous examiné la vie de David, du roi David? Ça vaut le coup, frères et sœurs, de considérer. Parce que nous sommes là, nous voulons sauver les âmes, et notre cœur est lourd à l'intérieur de nous, non pas uniquement à cause de nos péchés, mais parce qu'on a l'impression que parce que nous avons péché, alors c'en est fini de notre témoignage. Et nous sommes là devant Jésus et nous disons, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Me voilà, j'ai échoué et faut que tu trouves quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur, vous savez, le Seigneur, il m'a dit, fils de l'homme, il faut que t'ailles annoncer. Il faut que tu ailles annoncer au méchant s'il ne fait pas bien. Et si le juste a mal fait et qui se tourne de son iniquité, alors tu auras délivré ton âme. Nul d'entre nous ne veut de sang sur ses mains, frères et sœurs. Sommes-nous prêts à accepter d'être rabaissés au plus bas? La Bible nous dit que celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève, il sera rabaissé. Moi, je ne veux pas être rabaissé à la fin. Je veux être rabaissé maintenant. Et c'est ceux qui sont prêts à vivre la vie que Jésus a vécue sur la terre qui seront élevés. Jésus a été élevé quand il était passé par le Gethsémané, le calvaire et la mort et le tombeau. Quand il avait fait tout ça, après, il a été élevé. Notre Seigneur a été ressuscité. Ressuscité. Et à la lumière de toutes ces choses, là, je veux bien qu'un frère se lève et il dise « Alléluia ». Seulement quand nous avons contemplé la solennité et la sérieuxité de ces choses qui sont encore en nos cœurs. Là, je veux bien et je prendrai plaisir à entendre un frère ou une sœur dire « Alléluia, mon frère !» Amen. Mais Alléluia, qu'il soit effacé des lèvres qui n'ont pas été purifiées. Que ce mot ne trouve jamais de place sur les lèvres qui n'ont pas avoué leur véritable dépravation. La Bible nous dit que l'univers est témoin des choses qui ont lieu sur cette terre, plus encore en ces derniers temps. Nous voulons être trouvés dignes, dignes, frères et sœurs, d'échapper. La dignité, elle ne se trouve pas dans le fait que j'ai acquis des choses sur cette terre, que j'ai des possessions, que je suis regardé comme important par les hommes. La dignité, c'est que Dieu voit en nous une âme qui est digne d'échapper aux calamités qui vont tomber sur la terre. Continuons dans Proverbe. Dans Proverbe, chapitre 4, au verset 19. Proverbe 4, 19, « La voix des méchants est comme l'obscurité, ils ne voient point ce qui les fera tomber. » La raison pour laquelle je lis cela, c'est pour que l'on fasse le lien avec quelque chose qui va venir juste après, c'est que quand on tombe spirituellement, lorsque l'on trébuche et que l'on échoue, et que l'on ne voit pas, on ne discerne pas ce qui nous fait tomber, et donc que cela nous fait trébucher, et que l'on est dans cette condition spirituelle d'échec, nous sommes dans une obscurité. C'est ce que la Bible appelle l'obscurité de la voix des méchants. L'obscurité, c'est-à-dire que nous vivons, et ce à quoi je faisais allusion au tout départ, c'est que souvent, est-ce que vous avez ressenti que quand vraiment vous placez devant le Dieu pur et saint de l'univers, vous ressentez que il y a comme un voile d'obscurité qui vous sépare de lui. Et cette obscurité, elle est épaisse. Et elle est lourde. Et ce sentiment de séparation, il vous accable. C'est le sentiment que nous ressentons à cause du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui se sépare de nous, mais c'est ce péché qui agit comme un mur de séparation entre nous et Dieu. Nos propres actions nous condamnent. Et c'est dans cette obscurité-là qu'on se retrouve. Et c'est là qu'on veut vraiment réfléchir. Quand je ressens cette obscurité et que dans ce monde obscur, je ressens moi-même l'obscurité et que cette obscurité n'est plus simplement quelque chose que je place comme une condamnation sur notre personne, mais c'est que c'est un sentiment personnel d'accablement et de désespoir qui m'incapacite à faire les choses que je voudrais faire pour Dieu ou à aimer Dieu de tout mon cœur. Lorsque cette obscurité se fait ressentir, c'est là qu'en moi, j'ai ressenti cette obscurité que j'ai cherchée dans la parole de Dieu. Et j'avais pas vraiment besoin de chercher loin parce que je sentais, j'entendais ce passage qui faisait écho dans mon esprit. Et je me disais, c'est ça, je me souviens de ce passage. Il y a plein d'autres choses dans la Bible, mais je me souviens de ce passage. Et nous, lorsque nous, en tant qu'êtres humains, nous ressentons l'obscurité, nous ressentons le désespoir et nous demandons le but de notre vie et que nous voulons trouver ce but et nous voulons qu'il nous soit assigné pour ressentir de nouveau que nous ne marchons pas dans l'obscurité et que nous sommes plus en train de trébucher mais que nous avons un sentier qui nous est véritablement tracé lorsque nous sommes dans cette déplorable condition. C'est ce sentiment d'amertume. Il y a ces paroles qui résonnent dans nos cœurs, dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. D'ailleurs, on va commencer au verset 23 du chapitre 8. Mais il ne fera pas toujours sombre là où l'angoisse avait régné, comme au premier temps, Dieu a humilié la terre de Zabulon et la terre de Nephtali. Ainsi, dans l'avenir, il couvrira de gloire la terre voisine de la mer, au-delà du Jourdain, la contrée des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Et ça, cette parole, elle a trouvé un accomplissement quand Jésus, il est venu rendre visite aux hommes et femmes de la Galilée, la contrée des gentils. Et ce qui est arrivé pour eux, c'est une illustration de ce qui est également arrivé pour chaque être humain sur la terre depuis le commencement de l'histoire de la terre par la venue de Christ sur la terre. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Nous habitons dans ce pays-là, et pourtant, jusque dans ce pays, la lumière a resplendi. Et pour confirmer que cela parle véritablement de lui, nous lisons au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Un fils nous est donné. Un don nous est fait. Plutôt que de prêcher, je vais vous dire une expérience. Souvent, ça m'est arrivé de vraiment arriver au bas-fond de mon expérience. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que cela arrivait, ou très souvent lorsque cela arrivait, il y avait des chants de Noël qui revenaient à mon esprit. Et je tiens à préciser que nous, en tant que le véritable chrétien, celui qui connaît réellement l'histoire des cérémonies papales, est suffisamment illuminé pour savoir qu'il n'y a rien de solennel ou de sacré dans les fêtes de Noël. Nous ne fêtons pas Noël. Je tiens à préciser parce que c'est important, parce que j'entendais ces chants de Noël, mais comme j'ai dit un jour à un membre de famille, ça ne veut rien dire de fêter Noël comme étant soi-disant une fête de la naissance de Jésus, un jour par an, si pendant les 364 autres jours, on ne l'adore pas, on ne l'aime pas, et on ne le cherche pas. Mais malgré cela, à chaque fois que j'ai été dans ce sentiment d'amertume et de réel désespoir, j'ai entendu ces chants qui m'ont rappelé la venue du Sauveur. Mais ces chants, si peu de personnes réalisent leur véritable valeur. Lorsque lui, l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le prince de la paix est descendu jusqu'à nous, qu'est-ce que cela a coûté? Et c'est pas les petites figurines ou les étables en cire qui me réjouissent le cœur. Ce qui me réjouit le cœur à chaque fois que je me souviens de ces chants de Noël, c'est qu'un tel Dieu soit venu à moi, un tel pécheur. C'est que Dieu a dénié venir visiter et souffrir et s'humilier jusqu'à un pécheur comme moi. Et vous savez ce que ça fait dans mon cœur à chaque fois? Cela me donne de l'espoir. Que Dieu ait daigné faire ça pour moi, pour juste une seule brebis sur les 100, cela touche le cœur. Cela touche notre cœur. Notre cœur est touché lorsque on contemple avec notre âme languissante et pleine d'amertume le don que Dieu a fait à moi, à l'humanité, mais pas seulement à l'humanité, à moi, à moi. C'est ça vraiment qui réveille notre âme et qui la lève, relève de sa langueur et son amertume profonde. Dans Matthieu, chapitre 1, nous lisons ces merveilleuses paroles qui sont vraiment merveilleuses quand on a pu vraiment être frappé par la condition terrifiante de nous-mêmes. Matthieu 1, chapitre 20. Là, Joseph, il était fiancé à Marie, mais il y avait un problème pour lui parce que Marie, il a vu pertinemment qu'elle était enceinte et donc il s'est dit, bah, Marie, elle n'est pas si sainte que ça. Mais alors qu'il avait ses pensées en son cœur, mais comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Jésus est Dieu avec nous. Donc nous ne sommes plus seuls. Et donc quand nous recevons ça, que nous recevons l'histoire de ce don qui n'est autre que la réalité de ce don, quelque chose renaît en nous. Parce qu'il n'est pas, il est venu, pourquoi? Pour les sauver son peuple de leurs péchés. Pas pour les sauver dans leurs péchés, mais de leurs péchés. C'est-à-dire qu'il viendrait nous sortir de toutes ces choses qui causent notre malheur et créer en nos cœurs quelque chose qui nous sauverait du péché. Emmanuel, Dieu avec nous. Et ces paroles sont tellement lourdes de sens, tellement lourdes de sens. Des sermons entiers pourraient être prêchés là-dessus. Dieu avec nous, dans notre condition épouvantable. Dieu avec nous, ce n'était pas un concept abstrait pour Jésus-Christ. Dieu avec nous, cela voulait dire qu'il a dû s'humilier jusqu'aux profondeurs de ma dépravation. C'est ça, Dieu avec nous. À chaque fois que les hommes se présentent à des assemblées pour soi-disant annoncer la parole de Dieu et qu'ils prononcent ces paroles sans réellement en ressortir tout leur sens. Quel triste spectacle cela doit être pour les anges. Et vous savez, moi, je réfléchis, quel triste spectacle j'ai moi-même dû être aux anges à chaque fois que j'ai manqué de recevoir Dieu avec moi. Parce que Dieu, avec nous, avec moi, c'est Jésus avec moi dans mes souffrances et plus encore dans les souffrances que je souffre à cause de mes propres fautes. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Parce que souvent nous réfléchissons et nous disons: oui, quand j'ai souffert parce que j'étais victime, là, je me sentais plutôt justifié à demander ton aide. Mais là, je souffre à cause de moi. Donc maintenant, tu me laisses tomber, non? Mais non. Dieu, avec nous, ça veut dire qu'il a décidé de tout prendre. Tout. Jésus-Christ n'a pas fait d'exception dans son expérience pour moi. Et c'est ça qui nous donne de l'espoir. Et si nous lisons dans Jésus-Christ, à la page 9, paragraphe 1 à 2, l'esprit de prophétie met un tel accent sur les choses importantes que je préfère lire ce qui a déjà été écrit pour notre profit plutôt que d'ajouter mes propres paroles. Vous allez voir que tellement de choses nous ont été données dans les dons de l'esprit de prophétie. Il faut que nous nous en, que nous les prenions à cœur, que nous en fassions quelque chose, que nous ne laissions pas ces choses prendre la poussière. Je lis à la page, au début du chapitre 1. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu resplendit sur la face de Christ. Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était l'image de Dieu, l'image de sa grandeur et de sa majesté, le rayonnement de sa gloire. C'est pour manifester cette gloire qu'il est venu en ce monde. Sur une terre obscurcie par le péché, il est venu révéler la lumière de l'amour de Dieu Il a été Dieu avec nous. C'est pour cela que la prophétie avait annoncé, on lui donnera le nom d'Emmanuel. En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux hommes et aux anges. Il était la parole de Dieu, la pensée de Dieu rendue perceptible à l'oreille. Dans la prière qu'il a formulée en faveur de ses disciples, il a dit « Je leur ai fait connaître ton nom, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. » Est-ce que vous avez relevé des choses importantes de ce que nous venons de lire? C'est des joyaux de compréhension, mais c'est des perles et il faut que nous ayons les chercher sous la terre. En venant demeurer parmi nous, Jésus est venu révéler Dieu. Révéler Dieu, frères et sœurs. En Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ, je vois Dieu. Est-ce que ça ne met pas en silence toutes les luttes de l'âme de contempler Jésus, Dieu? Moi, je ne sais pas pour vous, mais ce sont ces choses-là qui donnent tout leur sens, tout son sens à ma vie. Et qui m'encourage à continuer, coûte que coûte, de voir ce Jésus, de trouver ce Jésus dans la parole et de savoir qu'il a choisi de prendre sa place dans mon cœur, quelle bonne nouvelle. Et vous savez, en ces derniers temps, le dilemme, c'est que tant d'âmes sont comme les Nicodèmes. Ils viennent dans l'obscurité de la nuit et ils veulent connaître de Jésus, apprendre de Jésus, mais sous la brillance du soleil, il n'y a plus personne. Parce que les hommes et les femmes, en ces derniers temps, n'ont pas le courage de prendre la croix. Mais moi, j'ai choisi de suivre Jésus pour que les âmes puissent être encouragées à renoncer aux honneurs du monde et à trouver la puissance de Dieu, la joie de Jésus-Christ. Sa joie, ce qui le faisait vivre, c'était de travailler pour le Père. C'était de révéler l'amour de Dieu aux âmes qui périssaient dans les folies et les tromperies, les illusions du monde. À la page 11, paragraphe 3, nous lisons. Parce que Dieu était méconnu, les ténèbres ont envahi la terre. Donc les ténèbres dans la terre, c'est parce que on ne comprend pas Dieu. Et les hommes ne comprennent pas Dieu et ils ne le connaissent pas, ils ne le voient pas. Et donc, ils courent vers le mal. Mais pour dissiper ces ombres lugubres, pour ramener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. L'emploi de la force ne pouvait produire ce résultat, car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement divin. Dieu n'accepte qu'un service d'amour. Or, l'amour ne se commande pas. Il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Son caractère se manifeste en opposition avec celui de Satan. Cette œuvre ne pouvait être accomplie que par un seul être, unique dans tout l'univers, celui-là seul qui connaissait la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu était capable de le révéler. Sur la sombre nuit enveloppant le monde, devait se lever le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons. Donc Jésus est venu révéler le caractère de Dieu. Il est venu manifester la réelle nature du caractère de Dieu. Et pas seulement ça, mais en ce faisant, il est aussi venu nous donner un exemple d'amour et d'abnégation qui nous fortifierait pour marcher sur ses traces. Il est venu nous révéler le caractère du Père, qui est en toute réalité le Père, et nous donner un tel exemple d'amour et d'abnégation dans l'amour, que cela nous fortifierait, ça nous donnerait du courage, cela nous donnerait une motivation intérieure vivante pour marcher comme il a lui-même marché. Et comme c'est écrit, l'amour seul éveille l'amour. Seulement par l'amour, il pouvait éveiller en nos cœurs l'amour. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Dieu savait, Dieu sait qu'il ne peut pas faire naître en nous l'obéissance de l'amour sans nous révéler la plénitude de l'amour. Et Dieu est amour. C'est lui qui est l'incarnation de l'amour et il a été lui-même incarné dans la chair pour pouvoir révéler l'amour qu'il est. Et il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la manifestation absolue de l'amour de Dieu, elle s'est trouvée dans le don de Jésus pour nous. Et donc, en ayant lu ça, que cette œuvre de manifester le caractère de Dieu, elle ne pouvait être accomplie que par Jésus, que par lui seul qui avait fait l'expérience complète, entière et éternelle de l'amour de Dieu, on veut maintenant lire la description biblique du caractère essentiel de ce que Jésus a manifesté. C'est dans Philippiens, on le trouve dans Philippiens, chapitre 2, au verset 5 à 8. Et donc, on nous dit, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc on voit là, c'est vraiment là l'essence de l'œuvre qu'a accompli Jésus par son incarnation sur la terre auprès de nous. Il était en forme de Dieu, il était Dieu lui-même, et pourtant il n'a pas regardé comme quelque chose à garder d'être égal à son égalité à Dieu, il a été prêt à l'abandonner, à y renoncer. Et il s'est dépouillé de lui-même. Il est devenu semblable aux hommes. Et s'étant trouvé revêtu de la figure d'homme, il a continué à s'abaisser lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ces choses qui nous sont révélées ici, elles sont pour notre instruction. Et ce qu'on y voit, c'est que Dieu a fait un sacrifice de lui-même en nous donnant Jésus, et que Jésus a manifesté qui était Dieu, ce qui était à l'intérieur du cœur de Dieu, en renonçant à tout ce qu'il avait de meilleur au ciel. Et ce qu'il a fait, quand on y réfléchit bien, quand on laisse ces choses traverser les méandres de notre esprit, ce qu'il a fait, ça touche les cordes sensibles de notre cœur. Il s'est dépouillé lui-même. Lui, l'admirable, le prince de la paix, le conseiller, le chef des anges, il s'est dépouillé de lui-même. De lui-même. Et en quoi cela sera profitable pour moi d'avoir les mêmes sentiments, ces mêmes sentiments qu'avait, qui étaient en Jésus-Christ? C'est que moi aussi, j'ai besoin de renoncer à toutes les choses qui semblent constituer mon paradis. Jésus était dans le vrai paradis de Dieu, le vrai paradis de Dieu, et il a renoncé à la vie céleste, pure, joyeuse et sainte qui l'y menait pour descendre et partager avec nous la dépravation du cœur charnel. Et maintenant, on est appelé à aussi faire ce sacrifice. Sauf que nous sommes appelés à sacrifier tout ce qui est mauvais, alors qu'il a sacrifié tout ce qui était bon. Et cet exemple qu'il nous donne, c'est ça qui nous donne de l'espoir. Parce que le fait qu'il ait fait ça pour nous, ça nous encourage à faire ça pour lui. Et si on va, pour finir, dans le psaume 37, psaume 37, verset 4, on lit « Et prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui, et il agira. Il fera ressortir ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Demeure tranquille en regardant à l'Éternel et t'attends à lui. » Donc maintenant qu'on a vu que Jésus est venu dans nos ténèbres et qu'il est venu éclairer nos ténèbres et nous donner un exemple. Maintenant, Dieu nous dit, prends ton plaisir en lui. Et ça sera pour toi une lumière. Remets ta voix à lui et confie-toi en lui. Et il fera ressortir ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Quand on aura ces mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui ont amené Jésus à faire un tel sacrifice pour nous, les choses qui ont illuminé son cœur et son âme, qui ont réjoui son âme, elles réjouiront aussi notre âme. Lorsqu'il était en train de parler à la Samaritaine, et que la Samaritaine était partie pour annoncer que Jésus était venu à ses compatriotes, et que les disciples sont venus à Jésus, et qu'ils lui ont apporté à manger, Et il leur a dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus avait quelque chose en lui qui lui donnait la joie. Et dans Hébreux chapitre 12, on lit que à cause de la joie qui était présentée devant lui, il a souffert la croix et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et c'est cette joie qui animait le Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous offre. C'est la joie du sacrifice. La joie du sacrifice. Le sacrifice ne semble pas joyeux et pourtant, il produit une joie que rien ne peut éteindre. C'est la joie de la résurrection. Et donc Dieu nous dit, confie-toi en l'Éternel, fais le bien, habite la terre et fais de la vérité ta pâture. Que ça soit ma pâture, ma réjouissance, prends ton plaisir en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. C'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Si je prends tout mon plaisir en Jésus, alors les demandes de mon cœur seront selon sa volonté. Et il les accordera à moi, selon son temps. Demeure tranquille en regardant à l'Éternel et t'attends à lui. Et on a une vision, verset 11, « Mais les débonnaires posséderont la terre et jouiront d'une paix abondante. Encore un peu et le méchant ne sera plus. Tu considéreras sa place et il ne sera plus, mais les débonnaires posséderont la terre. » Les débonnaires, ceux qui ont marché avec Jésus sur la terre. Nous avons raison de nous réjouir dans le don que Dieu nous a fait de Jésus-Christ. Et puissent ces choses, frères et sœurs, rester avec nous. Puissent ces choses nous animer. Puissent-elles nous guider sur le droit chemin. Et puissent-elles revenir à nous lorsque l'ennemi tente de jeter son ombre sur nous pour nous cacher la face de Dieu. Mais quand bien même les nuages couvrent notre vision, souvenons-nous que Dieu ne change pas. Dieu est amour. Et il a manifesté son amour envers nous par le don qu'il nous a fait en Christ. Et la révélation que Jésus nous a donnée du Père, c'est que le Père n'a rien refusé. Il ne nous a rien refusé. Que Jésus n'a rien retenu, n'a rien gardé pour lui-même, pour que nous puissions boire et partager avec lui la joie du sacrifice. Puisse le Seigneur bénir ces méditations dans nos cœurs et nous accorder l'activité constante de son esprit. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.